Bonjour, Céline Chanas, je suis aussi dans le domaine des musées, conservateur du patrimoine et directrice du musée de Bretagne à Rennes, en Bretagne. Je voulais vous remercier déjà par la qualité de vos présentations et puis votre sincérité, puisque finalement on voit entre des missions de service public et puis entre des objectifs plus commerciaux et privés, on n'a pas les mêmes objectifs, mais ce qui était intéressant au travers de vos expériences, c'est finalement d'afficher le cap et le sens que vous donnez chacun à vos actions et la complémentarité effectivement dans le développement d'un territoire qu'on peut avoir à travailler, on va dire, ensemble, en se mettant autour de la table. Dans les différents échanges que vous avez pu faire, il y a un sujet que vous n'avez peut-être pas abordé, mais c'était peut-être pas le sujet, qui pour moi est au cœur finalement, quand il y a investissement public, aussi d'une mission de service public et d'intérêt général, c'est la question de la conservation pérenne des données patrimoniales. Alors ça peut être des collections matérielles, mais aussi de l'immatériel, et notamment la manière dont dans ces différents projets la mise en ligne, l'ouverture des données culturelles est pensée. Et voilà, j'aurais aimé savoir si ça fait partie les uns les autres de vos enjeux, si vous vous associez un jour ou pas, ou en tout cas si vous avez ça dans votre pensée, à des services d'archives pour finalement ce que vous faites aujourd'hui, vos successeurs peut-être y prendront un cap différent, et comment cette transmission sera menée.
Merci. Je vais dire un petit mot, chère Céline, puisque je sais que le musée de Bretagne à Rennes est un musée pionnier en la matière, en termes de partage et d'ouverture des données. Vous êtes un modèle pour nous, hein, et d'ailleurs c'est un modèle que je cite dans les cours que je donne à l'IUT, à Dijon, le musée de Rennes, le musée de Bretagne, allez voir sur internet, ils ont fait un travail merveilleux de numérisation et de partage des données, et en effet ça fait partie de nos gros enjeux et une vraie problématique dans le monde patrimonial, mais également dans d'autres secteurs. Nous concernant, on a commencé le travail pour tout ce qui concerne la numérisation, l'archivage électronique de nos données, la couverture photo, ça c'est un travail qui a été entièrement fait grâce à notamment au conseil de nos collègues archivistes qui sont très dynamiques en la matière. Maintenant, c'est vrai que sur la partie mise en ligne, présence des ressources numériques du musée du vin en ligne, là on a encore du travail à faire. Ça fait partie des grands chantiers où j'estime qu'on n'a pas assez avancé ces dernières années, mais il y a l'ambition en effet qu'à un moment toutes ces ressources documentaires soient beaucoup plus présentes et puissent être partagées en effet d'un point de vue virtuel, puisqu'aujourd'hui un lieu patrimonial, un lieu culturel, mais un lieu œnotouristique, existe aussi de cette manière-là, comme en termes de sensibilisation, de valorisation. La numérisation elle a été faite, par contre la mise en ligne on n'en est pas encore là.
Je complète pour la vision Cité du Vin. Donc nous, on n'a pas de collection propre, mais on est un lieu qui génère de la connaissance à travers ou de la documentation à travers justement les échanges, les personnes qu'on reçoit, etc. Et donc ce travail de captation, on le prend au sérieux et donc il est accessible, mais il y a une vision de pérennisation aussi à travers ça, de quel est le discours qui se tient à un moment donné sur les pesticides ou le réchauffement climatique à un moment donné, et quel est le discours qu'on tiendra dans 10 ans, c'est intéressant, ou sur la gastronomie, ou pour parler de choses plus légères, donc ça c'est un premier point. La deuxième chose, c'est jusqu'alors quand on a produit des expositions temporaires, et il faut savoir qu'une exposition temporaire muséale, un peu exigeante, quand on rassemble des collections qui viennent de grands établissements, etc., et de loin, ça coûte très cher, ça. Souvent les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un vrai choix et engageant, parce que ça a un coût important de transport, d'assurance, de construction scénographique, etc., et aussi d'exploitation. Et nous, on a toujours intégré et réussi pour l'instant à le maintenir, mais je ne sais pas si on pourra le faire, si la Cité du Vin pourra continuer à le faire définitivement, parce que là aussi c'est un coût, la publication d'un catalogue qui est aussi un outil de pérennisation de ce qui se dit ou de ce qui se montre à un moment donné, donc c'est important. Et le dernier point, c'est que donc la Cité du Vin, vous l'avez compris, n'a pas de collection propre, mais comme on est identifié comme un lieu sur le patrimoine du vin, on a eu parfois des propositions de dons, de collections, d'ensemble, de collections d'étiquettes par exemple, ou diverses collections, pas beaucoup mais on en a eu quelques-uns. Et dans ce cas, la fondation les a acceptés, la donation parce que c'est des opportunités, mais les dépose dans des lieux appropriés pour leur conservation, en l'occurrence des musées ou des services d'archives. Et elle joue ce rôle donc, de transmission et d'intermédiaire. Elle en conserve la propriété, ce qui lui permet aussi de, ben voilà, d'y accéder. Et puis, symboliquement, les donateurs, souvent, ils sont attachés à un lieu. Ils ont envie de donner à quelqu'un en particulier. Il y a une dimension très, très humaine là-dedans. Et au départ, moi, je n'avais pas réalisé, mais je ne pouvais pas dire ben, « Allez plutôt donner à mon voisin du musée d'Aquitaine » ou du... Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, mais en fait, finalement, on fait ça et on essaie de trouver les meilleurs endroits pour gérer ça.
Et moi, pour répondre à votre question, on est une jeune activité, en fait, depuis 30 ans seulement, mais en 22 ans même, la partie de nos touristes. Donc, au niveau archivage, au niveau histoire de ce qu'on a fait, c'est encore un peu jeune pour le faire. D'ailleurs, ma fille attend que je sois mort pour commencer à archiver. C'est sympa. La deuxième chose, je vais dire, importante, c'est sur le fait que dans notre activité, on veut recevoir les clients, bien sûr, les futurs clients ou les non-clients, d'ailleurs, c'est ça l'intérêt. Mais on veut surtout leur faire apprendre des choses, puis aimer, puis revenir, etc. Donc, il y a toute une phase de notre métier qui est de les pérenniser dans leur revenir ici et surtout les envoyer ailleurs, au musée du vin, à la cité de Bordeaux aussi, c'est un peu loin, mais quand même. C'est vrai qu'il y a des gens qui font le tour des vignobles. On a beaucoup de gens qui commencent par le Champagne, la Côte d'Or, le Beaujolais, et ensuite ils s'enfilent sur les côtes du Rhône. Sur Bordeaux, c'est un peu plus loin, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui font des tours maintenant. D'où l'intérêt, c'est qu'ils restent un peu plus longtemps dans chacun de nos endroits. C'est ça un petit peu notre objectif. D'où l'hôtel, effectivement, des chambres, et d'où les distraire en leur proposant plein de distractions. Et distractions, ça peut être culturel, mais comme ça peut être beaucoup plus basique.
Une autre question, peut-être ?
Alors, juste une intervention. Donc, Dominique Aguilar, maire de Tonnerre. Donc, pour rappeler quand même que dans la Bourgogne, il y a département de l'Yonne. Avec le département de l'Yonne, il y a les vins du Tonnerrois, les vins du Chablisien, de Saint-Brie, d'Irancy, de Vézelay. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Donc, c'était ma première observation. Ma seconde observation qui fait suite aux propos de Monsieur Lefebvre, qui dit qu'en fait, s'immerger avec le vin, c'est également s'immerger autour du vin, et c'est d'aller chez les autres, d'aller voir ce qui se passe en dehors du vin, du patrimoine. Et donc, moi qui suis le maire de la ville de Tonnerre, vous avez par exemple un hôtel Dieu qui a été fondé en 1293, qui fait partie des pépites patrimoniales. Nous sommes sur les châteaux Renaissance. Donc avec le vin, on peut en effet proposer toute une série de visites de nos tourismes. Et avant qu'on arrive sur ce tourisme de masse, je pense que si on diversifie toutes ces visites touristiques, œnologiques, œnotouristiques sur l'ensemble des départements de la Bourgogne, il risque de se passer beaucoup de temps, et je crois que c'est vraiment de faire une répartition sur l'ensemble des domaines viticoles de la Bourgogne.
Oui, effectivement, rien n'en était exclu, puisque chacun de ces sites est une invitation à aller ailleurs et à élargir. Effectivement, mais il fallait bien s'arrêter sur quatre, là en l'occurrence, exemples tout à fait concrets, mais je crois que chacun a bien dit que c'était un appel à aller au-delà, et que le no-tourisme n'est pas un no-tourisme s'il s'arrête à un seul site, puisqu'un no-touriste, comme tout touriste, doit passer au moins une nuit à l'extérieur, plus si possible pour séjourner véritablement, donc ce qui permet d'aller jusque vers vos terres, évidemment. Je crois qu'il y a une question derrière.
Il y a un magnifique film qui a été réalisé donc, par Thierry Pouget, qui s'appelle « Ligne de vigne ». C'est un film qui retrace la vie de viticulteurs, d'hommes et de femmes qui travaillent dans la vigne sur une saison entière, donc qui va de la taille du travail de la vigne, des vendanges. Et j'ai eu le réalisateur là et je lui ai demandé quels étaient les mots-clés pour retracer quand même cette année de labeur. Il m'écrit, c'est une vie de passion, c'est la vie d'un couple d'ouvriers dans les vignes. Et en effet, c'est le travail d'ouvriers portugais qui sont venus s'installer dans le Chablisien il y a de ça environ 45 ans et qui en fait montrent vraiment à quel point le travail des hommes et des femmes est important et combien ce travail de la vigne a évolué puisque maintenant tout est mécanisé, tout est informatisé je crois que c'est vraiment une très bonne illustration d'un film qui montre ce que c'est aussi la viticulture. Pour les gens qui sont de l'extérieur, souvent on oublie ce travail de proximité des hommes et des femmes.
Merci bien.
Un point aussi dont on peut évoquer, c'est le formidable travail du Conseil supérieur de l'onotourisme et son label Vignoble et Découverte. Vous parliez de cette mise en réseau, pardon, et donc de toutes ces initiatives en région. Et le travail qui a été fait avec ce label est formidable.
Oui, bonjour.
Juste une toute petite dernière question. Non pas parce que j'aime bien parler, mais pour vous dire quand même qu'il y a eu des très bons films sur la Bourgogne qui ont très bien représenté, dont le film de Clapiche, etc. Donc vraiment, il y a des choses intéressantes à voir même au cinéma. En musique, un peu moins. Là, je voudrais faire juste une petite parenthèse. Il se trouve que ma fille Julie et moi-même, on a eu une vie professionnel dans le spectacle. Et il y a quelques mois, j'ai composé avec un ami parolier une magnifique chanson sur les climats de Bourgogne, où on parle de toutes les appellations. On a enregistré avec un orchestre et tout, c'était très bien. Par contre, France-Bourgogne, de même que la télé, tout ça, on leur a proposé quand même de faire écouter cette chanson et de la faire écouter au public. Pas un mot, rien, pas la moindre réaction, alors que c'est le tube du siècle.
On l'attend pour ce soir, alors. On veut la découvrir ici. Hein, oui.
Oui, bonjour, en attendant le tube du siècle. Donc je me présente, Francis Roy, je suis président de deux associations, une qui s'appelle Dégustère, qui est axée sur la dégustation, et une autre qui s'appelle Indivio Veritas, qui est axée sur l'histoire et le patrimoine viticole de la banlieue dijonnaise. Donc par rapport à la conférence introductive qui a rappelé un petit peu l'historique de la dégustation, où il y avait pas mal d'étapes historiques qui étaient axées sur plutôt les saveurs, les couleurs du vin. Donc j'ai vu aussi bien dans la présentation sur Beaune que sur la présentation de Bordeaux, il y avait des outils pour les arômes. Alors je me demandais si vous avez réfléchi à des outils ludiques pour les saveurs et pour les impressions en bouche, ce qui, à mon avis, pourrait permettre aussi d'inclure les enfants qui ne peuvent bien sûr pas déguster de vin. Donc je voulais avoir votre avis sur cette optique-là.
Alors nous, quand on a conçu le parcours de visite de la Cité du Vin, on voulait aller au bout de l'expérience en libre accès et en autonomie et proposer, au-delà des arômes, de la vue, même de l'ouïe qu'on traite, aussi la partie dégustation en bouche. Et on a essayé de trouver des outils. On a visité tout ce qui pouvait exister comme exposition sur la gourmandise, le goût, etc. Il y avait une exposition à la Villette à l'époque. On est allé en Belgique. On a essayé de voir s'il y avait des outils qui permettaient ça. Finalement, on est revenu à l'idée que rien ne remplace l'expérience partagée en atelier. Et que très vite, ces choses-là, c'est un peu artificiel ou un peu dégoûtant, assez rapidement aussi. Donc on les a écartés, surtout avec beaucoup de monde, en fait. Et du coup, on les a écartés, on est revenu à des ateliers. Et pour répondre par rapport à la question sur les enfants, la Cité du Vin a développé un atelier famille, qui se fait avec, le billet s'achète pour un adulte et un enfant à la fois, ça peut être un grand-parent avec un petit enfant, un oncle, une tante, etc. L'enjeu pour nous, c'était, alors évidemment, c'est pas faire découvrir le vin aux enfants, c'était simplement de les éveiller à la curiosité, au goût, et à leur montrer que voilà, on n'engloutit pas, mais que déguster, ça veut dire quelque chose. Donc c'est ça qu'on leur montre et qu'on leur apprend. Et c'est un atelier qui marche très bien. Qui, parce que finalement, même dans les musées ou dans les lieux d'éducation du jeune public, finalement, en dehors de la période de la semaine du goût, où il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont souvent intéressantes, sur l'année, il n'y a pas beaucoup d'offres possibles. Donc, elle existe en tout cas chez nous et voilà, on le fait.
Alors, très rapidement, pour le musée du vin de Bourgogne. Alors, pour la partie jeune public, on en reparlera demain matin, parce qu'il y a une table ronde qui est dédiée à cela, donc on en reparlera à ce moment-là. Mais voilà, on est exactement dans la même philosophie que la cité du vin à Bordeaux, alors à un niveau beaucoup plus modeste, hein, mais en effet, le constat que rien ne vaut, vraiment le moment partagé, l'atelier qui est pensé, où il y aura donc en effet un moment de dégustation commentée. Voilà, avec une médiation humaine, donc voilà, on est également là-dessus, mais ça fait partie des vraies questions, et là, je pense à toutes les réflexions qui ont lieu en ce moment sur le programme muséographique et scénographique de la Cité des Vins et des Climats à Beaune, où on s'est posé cette question-là il y a très très peu de temps, justement, de comment cette approche gustative, comment on fait, est-ce qu'on essaye de l'intégrer au parcours de visite permanent, de manière incontournable pour chaque visiteur, tenant compte que dans chaque visiteur, c'est un public international et qu'il y a un jeune public. Donc, mais c'est une vraie question, en effet. Ouais. C'est pas si simple que ça. Ouais.
Oui. Au Hameau du Bœuf, nous avons mis en place depuis une bonne dizaine d'années maintenant un parcours à destination de nos plus jeunes visiteurs, basé sur les cinq sens, donc des étapes tout au long du parcours. Et l'une d'elles, bien sûr, sur les arômes, est assez développée. Et puis on termine par une dégustation, y compris d'un jus de raisin issu de Gamay. Voilà.
Oui, donc je suis Gaëlle Gauthier, l'ex-directrice du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale d'Épernay. Je voulais juste préciser que le musée d'Épernay a été fondé en 1934, donc avant, je pense, celui de Colmar ou de Beaune. Et il a été repris par Georges-Henri Rivière dans les années 50 aussi. Ma question, c'était par rapport à la Cité du Vin. Tu as parlé du choix de prendre le numérique pour pouvoir parler de ce patrimoine immatériel en constante évolution. Et je voulais savoir, je sais, quand on ouvre un équipement, on doit faire des choix, parfois moins ambitieux, pour réussir à le sortir dans les temps. Je voulais savoir s'il y avait un programme pluriannuel de mise à jour des numériques de la Cité du Vin. Et aussi peut-être avoir un retour d'expérience au bout de 3 ans d'ouverture.
Alors, le premier enjeu pour nous, puisqu'effectivement c'est du tout numérique et multimédia, c'était de garantir une qualité d'expérience. Et donc nos premiers mois, on a essuyé les plâtres, hein, comme tout le monde, en essayant d'améliorer, de rendre fluide. Ça nécessite aussi d'avoir des professionnels sur place et disponibles, même le week-end, hein, bien sûr, parce qu'un vidéoprojecteur, un système, ça tombe en panne, il y a des bugs, il y a des choses qui se produisent. Et on a des équipes qui interviennent immédiatement et qui se sont beaucoup professionnalisées. Donc au cours des 3 premières années... on a plutôt travaillé sur l'amélioration de l'expérience, l'amélioration continue en faisant des études précises sur le comportement de nos visiteurs pendant la visite, voir ce qui pouvait être compliqué dans l'activation d'un dispositif, comment on pouvait le guider, lui simplifier la tâche, etc. Parce que c'était pas que des, il n'y a pas que des problèmes techniques, il y a des problèmes aussi de compréhension, d'ergonomie, etc. quand il y a des choses qui demandent l'appropriation par le visiteur. Et en termes d'enseignement, on constate que, alors c'est peut-être pas très gentil de le dire comme ça, mais les gens sont un peu paresseux quand même. Et il faut que ça vienne simplement et que ça vienne à eux. Alors, c'est pas un jugement, hein. Quand on est dans une démarche de visite, on est sur du temps de loisir, on est sur du temps où les gens viennent pour se faire plaisir. Ils n'ont pas envie de se compliquer la vie, on n'est pas devant son ordinateur pour faire des trucs compliqués. Il faut que ça vienne tout seul, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit simple. Ça, c'est le premier enseignement. Donc, ensuite, ne faire et ne mettre du numérique que si on est capable de l'entretenir avec des gens sur place et pas en faisant appel à une société qui va mettre 4 heures à venir, parce que rien n'est pire que des équipements en panne dans un lieu de visite. Ça fait vraiment pas... C'est pas satisfaisant du tout pour personne. Et puis, en termes de renouvellement, alors on parlait de la revisite. Nous, aujourd'hui, au départ, c'était une préoccupation de se dire, effectivement, il faut qu'on prévoie un plan de renouvellement progressif, etc. En réalité, on se rend compte que plus de 80% de nos visiteurs sont des primo-visiteurs, donc ils n'ont jamais vu, donc pour eux c'est nouveau. Donc il n'y a pas une nécessité, une course absolue au renouvellement pour dire qu'on a renouvelé. En revanche, je crois qu'on est très vigilant à pas être obsolète sur certains discours. Il y a des choses que les gens disent et qui étaient vraies quand on a ouvert ou quand on a tourné les films et qui sont peut-être moins vraies maintenant ou qui diraient autrement. Donc d'être vigilant sur l'obsolescence des contenus et là le renouvellement. Et du coup, dans cette perspective-là, on a mis en place, enfin l'équipe a mis en place un plan de renouvellement pluriannuel parce que ça coûte cher ce renouvellement. Que ce soit la production de contenu ou que ce soit le dispositif en lui-même scénographique, et donc on est obligé de le programmer et prévoir des réserves pour pouvoir le programmer parce qu'on sait que forcément on ne sait pas forcément quoi et dans quel ordre, mais qu'il va y avoir des renouvellements à envisager. On a quand même fait déjà des choses, mais à la marge bien sûr. Et c'est indispensable pour pas générer de déception, en fait. Voilà.
Oui, Jean-Pierre Silla, je suis méridional, la Bourgogne méridionale, on va dire, originaire du Mâconnais, et j'ai assisté le grand site de Solutré dans la réalisation d'une collection dont le premier ouvrage a été consacré au paysage et le prochain au vignoble de Pouilly-Fuissé. La remarque et la réflexion que je voudrais faire, ainsi qu'une question, est la suivante. Vous avez parlé ce matin, vous avez évoqué André Lagrange, l'ethnologie, vous avez projeté également le tableau de Daubigny. Les tableaux et les représentations picturales de la vigne sont extrêmement rares, sont très rares. Les matériaux sont rares. Bon. Alors, mon observation porterait sur, je pense que dans tout ce que vous avez décrit, qui est très, très vivant et très contemporain dans vos muséographies, je pense qu'il est important de ne pas omettre ce qu'a été l'aventure humaine de la vigne, hein, sur quelques générations à peine. Hein. Il me semble que à l'usage des urbains, enfin des concitoyens urbains comme des jeunes publics, je crois que ce message-là est important. Hein. Est-ce qu'il il aide quand même à comprendre ce qu'est aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui. Et la question que je voudrais poser, en revanche, c'est sur la question de la mémoire. Je trouve que quand on se penche sur un vignoble, on a assez peu de mémoire écrite et beaucoup de mémoire orale. Et cette mémoire orale générationnelle, elle est très importante à saisir. Et je voudrais connaître l'avis, notamment des conservateurs, conservatrices, conservateurs, sur la valorisation de cette mémoire orale.
Oui, je vous rejoins totalement, hein, évidemment, hein, sur l'importance de la collecte d'une part, puis de la restitution, hein, de cette mémoire vigneronne, mais qui, nous ne sommes pas les premiers à y avoir pensé. Si on revient à André Lagrange, c'est tout le travail qu'il a fait de collecte de témoignages, toutes les photos qu'il a réalisées, où il a demandé à des anciens vignerons de poser avec d'anciens outils pour montrer comment on utilisait l'outil au 19e siècle, toute la collecte d'outils, ça c'est justement tout un travail ethnologique, hein, de collecte d'une mémoire qui était, qu'on risquait justement d'oublier, hein, donc de sauvegarde, et c'est quelque chose que nous sommes nombreux aujourd'hui sur le territoire à continuer à maintenir. Je pense tout le travail qui a été fait par les climats du vignoble de Bourgogne avec Parole Vigneronne, hein, le travail de collecte de cette mémoire vive, hein, mais plus sur la période contemporaine, hein, voilà. Tout le travail qui est fait par mes collègues, que ce soit archivistes dans les bibliothèques, donc on se rejoint totalement. Ça c'est en effet très très précieux qu'à chaque génération il y ait ce travail à un moment ce regard à poser sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce, voilà, là, en l'occurrence sur la Bourgogne viticole, et donc en effet de collecte. Ouais.
C'est ce qu'on appelle du patrimoine immatériel pour le coup, et c'est une vraie préoccupation des gens du monde du patrimoine, en fait, de sauver ces éléments-là qui sont effectivement plus fugaces et qui demandent du temps et de la méthode et de la conservation différente de celle des objets qu'on connaît bien.
Bonjour. Guylaine Chouissat, la région Bourgogne-Franche-Comté, à la direction du tourisme. Déjà, merci à tous les orateurs et pour toutes vos interventions, dont le dénominateur commun pourrait être la passion. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens en vous écoutant tous. Et je pensais à quelque chose, à un concept ou à une, je sais pas, une philosophie, on pourrait même aller jusque-là, dont on parle depuis un petit moment, qui est le slow tourisme. On dit même que la région, enfin le territoire régional de la Bourgogne-Franche-Comté pourrait être vraiment un terrain de jeu parfait pour ce concept ou cette philosophie. Voilà, je me demandais comment le no-tourisme pourrait avoir sa place. Est-ce qu'elle a une place? Est-ce qu'elle aura une place dans ce concept, dans cette, encore une fois, dans cette philosophie de slow tourisme?
Juste un mot. Alors, c'est une notion qui est absolument sans rapport avec ce qui se passe à Bordeaux, où on n'est pas du tout là-dedans. Mais moi, j'y crois énormément et je pense que ça correspond à une vraie tendance aujourd'hui, notamment de recherche de touristes urbains qui ont envie de dire stop, de prendre le temps, et que ça fonctionne particulièrement bien avec le monde de la vigne et du vin, où on est sur une matière qui s'inscrit dans le temps. Et les spiritueux aussi, moi j'ai travaillé donc à Cognac, et là où on conserve des barriques pendant 50 ans, c'est complètement aberrant à notre époque, enfin, c'est complètement contre tout ce qui se fait aujourd'hui, où on est dans un monde de la rapidité, de pas de stock, et de faut aller vite, etc. Et je crois que ça, c'est des valeurs qui sont précieuses, et que... sans doute, le no-tourisme pourrait avoir intérêt à les souligner, à les mettre en avant, parce que ça va forcément répondre à une attente du tourisme d'aujourd'hui, je pense, à une partie du tourisme d'aujourd'hui, qui n'est pas du tourisme de masse, justement.
Pour compléter peut-être, je pense que ça viendra surtout de la demande plus que de l'offre, et je crois qu'il y a les deux, parce que depuis Paris, il y a des agences touristiques qui font faire un temps record Paris-la-Champagne, Paris... limite la Bourgogne, Paris, le Val-de-Loire, c'est-à-dire les vignobles qu'on peut atteindre depuis Paris si on part tôt, si on rentre tard. Donc là, on n'est pas du tout dans du slow tourisme. C'est un tourisme international, mais qui existe et il y a une demande. Et par contre, je suis bien d'accord que pour des touristes français qui sont en vacances, ils viennent plutôt rechercher ce temps lent, ce temps de la discussion, qui accepte d'attendre que le vigneron soit disponible pour le plaisir de le rencontrer et que ça n'a pas de prix, donc on peut l'attendre et on est dans ce slow tourisme. Donc je pense que les deux, mais ça ne se décrète pas de faire du slow tourisme, c'est une demande et c'est une adaptation de part et d'autre, je crois.
J'ajouterais simplement que je pense que le no-tourisme est un élément où découle de la gastronomie. Alors, de slow food à slow tourisme, c'est la même chose.
Alors, Charlotte Fromont, désolée, toujours guide conférencière. Et voilà, avec les guides indépendants en Bourgogne-Franche-Comté, je voulais juste réintervenir suite à l'intervention de Madame le maire de Tonnerre, puisqu'il se trouve qu'on est deux là, à être une du Chablisien et une à moitié à Vallon et Dijon. Donc on intervient, notre terrain de jeu à nous, c'est Auxerre, Cluny, j'allais dire, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc on intervient sur tous les vignobles de Bourgogne. Et concernant le dispatching, quelque part, des zones touristes sur les différents vignobles, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on est obligés de répondre à ce qu'on nous demande. Les agences qui font appel à nos services, on essaye aussi, nous, de les orienter en leur disant « Mais attendez, vous venez de tel endroit, peut-être qu'on peut peut-être s'arrêter dans le Chablisien, dans le Vézelien, du côté d'Irancy ou dans le Mâconnais. Voilà, on connaît aussi des structures, on peut vous faire découvrir d'autres choses que produit le Chardonnay ailleurs, par exemple, ça peut être une thématique. » C'est notre rôle, à nous, en tant que guide, de le faire, et on le fait au quotidien. Mais le problème, c'est que les agences qui font appel à nos services, ils disent, ouais, non, mais vous comprenez pas, nos clients, ils veulent aller au Montrachet, ils veulent aller à la Romanée-Conti, ils veulent pas sortir de là. On essaye, c'est notre boulot, on le fait sur le terrain, mais c'est vrai que des fois, on se sent un peu seul dans cette démarche-là. Et on a d'ailleurs monté, pour répondre sur ce qui se passe sur le territoire éconnais, on a eu la très grande chance et le très grand honneur de pouvoir participer à la Saint-Vincent tournante de Vézelay, pour laquelle on avait monté deux expositions qui ont rencontré un franc succès, puisqu'on a accueilli quand même plus de 2500 personnes sur les deux jours, sur les expositions qu'on avait montées sur Vézelay, dont une qui était sur les vins de Vézelay à travers l'histoire, depuis la période gallo-romaine jusqu'à aujourd'hui, avec les portraits de tous les vignerons de l'appellation. Ça, c'était important pour nous de montrer que derrière le produit vin, il y a aussi les hommes qui les font, et de faire une immersion gustative, puisque ça, c'est fait partie aussi de notre manière de transmettre l'information, d'emmener les gens avec nous dans le passé et redécouvrir les vins tels qu'on les consommait autrefois, que ce soit à l'époque gallo-romaine, que ce soit à l'époque médiévale, que ce soit même au XVIIe, en recréant des recettes de l'époque pour qu'ils puissent vraiment appréhender les choses. Ça, c'est notre rôle. Nous, on a un pied dans le système universitaire, donc avec tout ce qui est musée, et un pied dans la viticulture, puisqu'on est aussi beaucoup, et Amandine, tout comme moi, moi j'ai été aussi ouvrière viticole pendant des années. Donc je pense qu'on est assez à même de parler du métier de la viticulture et de nous faire les relais, les aides des vignerons sur les terrains. Les gens avec lesquels on travaille le savent, et on travaille conjointement les mains dans la main, que ce soit avec les universitaires d'un côté, que ce soit avec les gens sur le terrain. Et au contraire, nous on est là pour faire le lien, et on veut vraiment pouvoir avancer et faire découvrir notre pluralité bourguignonne dans tout ce qu'elle a de plus beau, de divers, de varié, depuis le Nord, donc depuis Tonnerre, et ce serait avec grand plaisir qu'on développerait des choses dans le Tonnerrois, il y a des super domaines dans le Tonnerrois, jusqu'au Hameau du Bœuf en Beaujolais, en passant par Beaune et Puligny, évidemment, Monsieur Le Fleuve. Voilà.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. Les touristes sont des consommateurs pour la plupart avant toute chose, et c'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie de voir, et ça, il faut jamais l'oublier. On peut les orienter vers quelque chose, mais jamais on peut les obliger. Et la chose la plus importante, c'est de s'adapter à notre visiteur. C'est pas eux qui s'adaptent à nous, c'est nous qui nous adaptons à eux. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien au tourisme, et quelle que soit la forme de tourisme. Et juste pour terminer, le Hameau du Bœuf, qui est un endroit que je connais particulièrement bien parce que j'y accompagne énormément de groupes, est un endroit extrêmement bien adapté pour toute forme de nos tourismes, parce qu'on peut à la fois survoler et aller dans le détail. Et c'est pour ça que c'est un endroit qui est très appréciable pour faire découvrir le vignoble du Beaujolais, mais également toute forme de vignoble, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le monde du vin.
On va devoir conclure, donc deux petites brèves interventions. J'ai quelqu'un à droite, donc assez rapidement, s'il vous plaît.
Je vais commencer du coup. Pascal Gersen, bonjour à tous. Je dirige l'office de tourisme de l'agglomération de Beaune ici. Et en résonance avec ce qui vient d'être dit et également avec la notion de slow tourisme ou de slow food dont on a parlé tout à l'heure, je voudrais livrer un petit témoignage de ce qui se fait en ce moment, qui est aussi, je pense, un message d'espoir par rapport aux remarques qui viennent d'être faites. C'est l'exemple d'une opération de promotion touristique qui a été menée pour la première fois là, cet automne, par l'ensemble des institutionnels du tourisme de la partie bourguignonne de la région, le comité régional du tourisme, les comités départementaux des quatre départements qui composent la Bourgogne, et puis l'ensemble des offices de tourisme. On a travaillé tous ensemble pour montrer aux populations urbaines qui sont proches de chez nous et qui sont notamment une clientèle importante pour nous, les Parisiens, les Lyonnais, que l'automne, c'était justement une saison particulièrement adaptée, non seulement pour venir déguster du vin, pour venir se mettre au coin du feu, pour venir faire une promenade en forêt, enfin tout ce que vous pouvez imaginer les uns et les autres. Donc c'était à la fois pour nous un moyen de préempter d'un point de vue marketing cette saison qui aujourd'hui n'a peut-être pas encore été préemptée par une autre destination et nos touristiques, donc on en profite, ce serait bien dommage de ne pas le faire. et également pour capter donc ces clientèles, donner l'habitude aux gens de venir passer un week-end sur cette aile de saison pour laquelle on peut encore recevoir du monde. Et la manière dont on en parle, les thématiques qu'on met en avant, la manière dont on fait la promotion, elle va complètement dans le sens de cette idée de prendre le temps, arrêter de courir, profiter des belles choses que la vie nous donne à déguster. Donc on est complètement dans cette idée-là et je tenais vraiment à faire part de ce témoignage, à la fois pour montrer que tous les acteurs, quand ils se coordonnent, qu'ils travaillent ensemble, eh bien ils cherchent et j'espère ils arrivent à faire en sorte que les gens aillent partout. Merci pour la remarque des guides conférencières. On essaye aussi d'aller dans le même sens au niveau des institutionnels du tourisme. Et c'est aussi pour renforcer encore une fois l'idée que, effectivement, comme on dit, les personnes qui sont à la tribune, on a une résonance, on a une cohérence vraiment, je pense, totale entre les valeurs que l'on essaye de mettre en avant demain, aujourd'hui déjà, qui sont celles attendues par nos touristes, par nos clients, et ce qu'on fait ici autour du vin, de la dégustation, des métiers liés au vin et à la vigne.
Juste pour compléter ce que vous dites et ce que disaient les guides conférencières, c'est effectivement, on a envie d'aller vers ce temps, etc., et de sortir des sentiers battus, mais on ne peut pas obliger les gens. Et c'est difficile de les faire sortir des sentiers battus, vraiment. Et je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est avoir des offres à géométrie variable. Et à la Cité du Vin, on a été conduits à imaginer, pour répondre justement, alors pour le coup, à des gens qui n'avaient pas le temps, parce que c'est des gens qui viennent en croisière et qui sont minutés parce qu'il faut qu'ils repartent dans leur bateau à une heure précise, notamment pour ces gens-là. Alors que notre parcours, il est fait pour être découvert tranquillement, prendre son temps, etc. De proposer un circuit court, en fait, avec un flyer qui vous dit, vous voulez faire l'essentiel, vous voulez faire une thématique particulière sur l'histoire ou un autre sujet, eh bien, faites ça, et en une heure, vous aurez vu votre sujet. Alors, bon, ça répond à cette demande de visiteurs pressés, on va dire, mais qui veulent quand même voir quelque chose et que ça fasse quand même du sens. Et puis ça a l'avantage quand même aussi de répondre à des visiteurs qui sont déjà venus, qui ont fait un tour, mais qui vont revenir avec du coup une autre approche, avec une approche thématisée et qui vont faire un petit tour plus court. Voilà.
Toute dernière intervention brève.
Bonjour, Marina de l'entreprise Ficofi. J'ai juste une petite question pour revenir à la notion des enfants dans le no-tourisme, parce que les enfants seront les acteurs de demain. Et on voit bien dans les statistiques que la consommation du vin en France, toute cette joie de partage de repas, de gastronomie, s'efface petit à petit dans la culture française. Et vous, en tant qu'acteur de l'éno-tourisme, vous avez mis en place à vos différentes échelles des notions pour les attirer, pour les captiver ou pas, pour les mettre devant un film. Mais justement, ça peut être aussi des films ludiques pour raconter l'histoire de ces patrimoines. Comment, sans marcher sur des œufs par rapport aux lois et vins, cette notion de dégustation, d'alcool, d'attirer l'enfant vers un développement des consommateurs aguerris au moment où il sera en âge de découvrir ses plaisirs des dégustations et des gastronomies. Comment on peut anticiper ça et faire revenir ces partages et ces plaisirs de l'œnotourisme?
On a évidemment quelques mesures de précaution pour ceux qui font des dégustations trop importantes. Donc il s'agit simplement de leur limiter la quantité qu'ils dégustent. Mais aussi, il faut faire ça dans le temps. Et là encore, vous dégustez 15-20 en une demi-heure, c'est beaucoup plus dangereux que 20-20 en 4 heures. Enfin, j'exagère, mais c'est pour vous dire que c'est dans le temps, on fait attention. Maintenant, on a tous des tests anti-alcooliques à disposition des clients. On leur propose d'ailleurs, on fait tous attention à ça. Mais c'est sûr qu'après une dégustation de 10 vins, c'est vrai que si la maréchaussée est à la sortie de notre emplacement, c'est pas facile à gérer.
Écoutez, je partagerai avec vous mon expérience. En 25 ans, on n'a jamais déploré des situations compliquées en fin de visite. Je pense que peut-être justement ce parcours, ce partage avant tout de notre histoire, la culture, le respect du vin fait que, en final, la dégustation se passe plutôt bien. Et maintenant, à destination des plus jeunes, ben, nos futurs consommateurs, donc, c'est important qu'ils aient un parcours adapté à leurs envies. Et c'est toute la tâche à laquelle nous attelons depuis quelques années, de faire une destination familiale où chacun, toute génération, puisse découvrir et prendre du plaisir à visiter le hameau. Donc pour ça, ben, comme je l'ai expliqué, on adapte nos animations aujourd'hui vers plus de sensations, c'est vrai, et puis carrément en créant des médias spécifiques pour les plus jeunes.
Nous, je dirais que nous, on a conçu l'endroit pour être là aussi très familial, et dans les faits, ça se vérifie. C'est très transgénérationnel et chacun fait sa visite avec sa sensibilité, et on en retire sans doute pas la même chose, mais on a des taux de satisfaction élevés, quelles que soient les tranches d'âge dans le parcours. Et puis, notre idée, c'était de dire, nous, il faut que le parcours soit accessible dès 7 ans, enfin, dès l'âge où les enfants commencent à être capables de lire un petit peu, etc. Et donc, le discours est relativement simple. Mais en fait, c'est bien aussi pour les adultes, quand il y a beaucoup de choses à dire, même des choses complexes, que ce soit fait avec un discours simple, finalement, c'est très bien. Donc, les gens peuvent le partager. Et puis, comme on aborde le sujet de la vigne et du vin à travers le prisme d'un patrimoine culturel et pas seulement sur le produit vin et sur sa dégustation, ce patrimoine-là, ça concerne les enfants, le paysage, les métiers, tout ça, et ça les intéresse vraiment. Donc on n'a pas spécialement de difficultés, et on l'a mesuré vraiment parce que au départ, l'équipe étant réduite, forcément, on ne pouvait pas mener de front tous les chantiers, et on n'est pas allé travailler les publics scolaires du tout. Et ils sont venus tout seuls. Les enseignants sont venus préparer leur visite, et on a vu vraiment des classes venir visiter de tous les âges. Et donc ça répond à un intérêt, manifestement, à une curiosité, et ça ne pose pas spécialement de problème. Et puis après, dernier point, c'est les étudiants. À Bordeaux, il y en a beaucoup. Alors il y a des étudiants orientés sur les questions de la vigne et du vin, donc eux qui sont des fidèles et qui viennent régulièrement trouver leur compte dans les ateliers, dans les masterclass ou dans la programmation en particulier. Mais ça me fait penser à un travail qui avait été fait par un sociologue sur la manière dont les jeunes s'approprient le vin, et que finalement ça demande une certaine initiation, et par rapport à des alcools forts qui sont bu, qui sont engloutis là pour le coup souvent de manière complètement sans limite, le vin demande une certaine initiation. C'est un produit qui inspire un certain respect, et il y a une transmission, et il y a une espèce de rite de passage à l'âge adulte au moment où le jeune adulte commence à consommer le vin, et c'est souvent une transmission qui se fait familialement d'ailleurs, mais pas seulement. Et donc voilà, tout ça pour dire que la problématique de la jeunesse et de l'enfant jusqu'au jeune adulte, ça a l'air de se faire assez naturellement dans notre lieu.
Très très rapidement, parce que je vois la pression amicale du directeur de l'association des climats. Non, bah, très très rapidement, j'en reparlerai demain matin parce qu'il y aura vraiment une thématique dédiée à ça. Mais je rejoins mes camarades de table ronde, et notamment Laurence. Hein, c'est vrai qu'au musée du vin de Bourgogne, on est plus sur un éveil, une sensibilisation à le vin comme un marqueur identitaire, comme un produit civilisationnel et culturel. On va être plus là-dessus, dans le parcours de visite permanent où on a en effet un parcours jeune public. On est beaucoup plus sur ces valeurs-là, mais on reparlera de toute cette problématique, en effet, parce que ça reste un produit alcoolisé, donc comment on en parle à un jeune public, c'est en effet une vraie... Et on doit en parler, tout à fait, mais comme vous l'avez très bien dit.
Merci, on reparlera de toutes ces thématiques, dont une, en tant que directeur des climats du vignoble de Bourgogne, c'est vrai que moi j'ai une question, et je ne vais pas la poser sous forme de question, on va la garder pour cet après-midi, on aura la chance d'avoir des représentants du monde scientifique qui ont aussi un autre regard et d'analyse, notamment historique, des constructions, d'évolution. Là, par exemple, dans la discussion, il y a quelque chose qui m'étonne grandement. On est tous des intermédiaires, des passeurs. Alors à part Olivier, peut-être, qui est le seul qui a parlé de boue, hein, de vigne, du terroir. On est tous des passeurs et donc à un moment donné, on transforme les propos. On les adapte, on les arrange. On a parlé tout à l'heure de, on s'adapte aux attentes des visiteurs. Moi, j'aime bien m'adapter quand même à l'attente des vignerons. C'est-à-dire que quand on ouvre un lieu, ça soit réellement le vigneron qui me dise, moi, je sens qu'on parle de moi. On parle de mon travail, on parle de mon quotidien. On parle de ce que je vis, de l'historique, etc. Et donc, tout ça, je pense qu'il faudra qu'on l'aborde cet après-midi. Je ne vais pas lancer le débat, parce que mes collègues m'ont dit que la soupe est prête. Et quelques petits mets qui accompagnent et quelques petits liquides aussi. Donc c'est des sujets qu'il faudra aborder parce qu'on parle de vigne et de vin et la viticulture doit être au cœur de ces débats-là. Je tiens énormément à vous remercier, évidemment, Sophie pour l'animation, les quatre intervenants. Et vous aussi pour vos questions. Et on va continuer cet après-midi en vous laissant le maximum de temps également.